France Inter. Le masque et la plume. Bonjour et bienvenue à l'écoute et au théâtre de l'Alliance française pour une émission consacrée aujourd'hui à l'actualité littéraire. Pour les débats à venir, les forces en présence sont Raphaël Léris du journal Le Monde, qui porte aujourd'hui un t-shirt Vic et Pénélope en hommage à la Boum. Merci Raphaël. Patricia Martin de France Inter, que vous retrouvez aussi chaque vendredi à 20h10 pour leur philo. Comme souvent, l'homme de la situation s'appelle Vivian, Arnaud Vivian, de Transfuge, de Regard et aussi de France Inter, avec son édito Culture à 9h40 le mercredi. Enfin, merci d'accueillir Blandine Rinkel, autrice, musicienne, créatrice du compte Instagram Intérieur Nuit, où tu publies des chroniques littéraires, Blandine. Elles et ils sont là pour se réjouir ou pour regretter le programme qui suit, c'est-à-dire Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, American Mother de l'Irlandais Colm McCann, Une existence sans précédent de Claire Fercac, et En vérité Alice de Tiffany Tavernier. De l'amour, une quête des origines, le portrait d'une mère et des saints, S-A-I-N-T-S, ce pourrait être la bande-annonce de l'heure qui vient. Un proche m'a offert « La vie heureuse » de David Foenkinos. Il a donc bien fallu que je le lise, nous écrit Sébastien Hérel. Et il poursuit « Figurez-vous que ça m'a plu ». Et me voilà tout étonnée de rejoindre la vie de Patricia Martin.
Bravo.
Ne vous étonnez donc pas, Sébastien. Selon Janine Biel, La Tribune a d'ailleurs profité de ton absence, Patricia, pour avoir été sans pitié avec Philippe Besson et son roman Un soir d'été.
Je sais.
Je ne sais, tu l'as lu ?
Oui, mais j'ai entendu.
Ah, et alors ? Tu as pleuré ?
En vous écoutant ? Non. Oh, écoute, on va, bon, voilà, c'est passé,
okay.
C'est passé.
Cette auditrice écrit aussi « Jamais je n'ai eu envie de lire les auteurs que vous avez mis au programme, mais à votre écoute... »
C'est une question vacharde.
« Mais à votre écoute, je vais m'y mettre. » Notamment « Fabriquer une femme » de Marie Dariussec. Audrey fait part de sa tristesse concernant les critiques acerbes envers Philippe Besson, toujours. « Pensez à prévenir les chroniqueurs que populaire n'est pas un gros mot, mais que condescendance n'en est pas un joli. » Quant à Stéphanie Hort, elle souhaite dédicacer une chanson à Arnaud Vivian. Donc, je m'exécute.
J'ai peur, là.
Arnaud, c'est pour toi.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère.
J'avais réussi à l'oublier.
Et voilà, maintenant tu l'as dans la tête pour une semaine. Les vacances au bord de la mer, donc de Michel Jonas, que tu as cité, Arnaud, pour parler du roman de Philippe Besson, dont il est largement question, vous l'avez compris, dans le courrier de la semaine. Mentionner cette chanson merveilleuse, écrit Stéphanie Hortz, pour illustrer la pauvreté d'écriture de Besson et pour le moins inappropriée. Benoît Derry de Chalon s'interroge sur mes propos au sujet de Bastien Fontaine, un des personnages principaux de Fantastique Histoire d'amour, merveilleux roman de Sophie Libri. Rebecca, m'écrit Benoît, vous dites avoir envie de boire un verre avec un type qui est inspecteur du travail, catholique et alcoolique. Mais quelle femme êtes-vous donc ? Pour ma part, je suis comptable, protestant et non-fumeur. À bientôt. Et Benoît signe en me donnant son 06. Quant à la faute de français de la semaine, il en faut une. Ouais. Elle m'est signalée par le compte Twitter Rosa Rosam in Twitto Veritas, qui affirme avoir entendu à cette tribune un espèce de « Comment gardez-vous confiance en l'humanité après ça ?» demande Rosa Rosam. Rebecca Manzoni, « Faisait quelque chose », demande-t-elle. Au jour d'aujourd'hui, je vais donc pallier à cette erreur. On commence cette émission dédiée au livre avec Nicolas Mathieu et son recueil de textes réunis sous le titre « Le ciel ouvert ». Ces textes ont d'abord été publiés sur Instagram et ceux qui ouvrent le recueil ne s'adressaient publiquement qu'à une seule femme, un amour clandestin. Le livre, qui compte un peu plus d'une centaine de pages, rassemble les instants, les réflexions qui font la vie d'un homme, d'un amant, d'un père, d'un fils. Et à partir de micro-moments intimes, il est question de révolte collective, de joie, d'absence, de résistance au passage du temps, d'amour. L'amour faisant le lien entre tous ces blocs de phrases, comme le dit Nicolas Mathieu lui-même. Le tout est illustré non pas par des photos, mais par des dessins très colorés, signés Alice Zalco. Après Polar et Roman, dont Leurs enfants après eux, prix Goncourt 2018, c'est le premier livre frontalement autobiographique, je crois, de Nicolas Mathieu, très largement relayé par la presse, avec un accueil plutôt dithyrambique d'ailleurs. Et toi Arnaud, qu'en penses-tu ? Tu rejoins la dithyrambe ?
Non. Non, mais cela dit, je trouve que ce livre pose une question intéressante, c'est est-ce qu'on peut faire de la littérature sur les réseaux sociaux ? Je dis bien sur les réseaux sociaux, je dis pas sur Internet, parce que ça, voilà. Ça m'a rappelé quand Bernard Pivot avait publié en recueil ses tweets, en estimant qu'une fois imprimé, il prendrait valeur d'aphorisme.
Bah, c'était donc, quand même moins bien.
Ça restait des tweets. Non, mais du coup, voilà, c'est cette question qui est vraiment passionnante. Est-ce qu'on peut écrire sur les réseaux sociaux ? Parce que dans réseaux sociaux, le mot important, c'est sociaux, est-ce que la littérature a à voir à faire avec la société ? Alors, c'est intéressant, si vous voulez, moi j'ai lu les deux premières lignes du texte, il y a une introduction.
Les autres aussi, j'espère ?
Non, mais oui, j'ai fini par lire les autres, mais quand j'ai lu les deux premières lignes, déjà j'ai jeté le livre à l'autre bout de la pièce. Ça tombe bien parce que il était, à mon avis, un peu trop joli. Parce qu'ils ont fabriqué un objet, quand même, avec une couverture cartonnée, et puis donc les dessins dont tu as parlé, Rebecca, qui sont un peu du sous-fauvisme de supermarché, à mon goût, mais voilà, c'est, voilà, couleur d'incendie, comme dirait Nicolas Mathieu. Mais la première phrase, c'est « Je vais te dire, en réalité, la littérature ne peut rien ». Et la deuxième phrase, c'est « Là-dessus, tout le monde ment ». Alors, tout le monde aura connu, j'espère, Linky Pete, enfin, la parodie d'un des plus grands romans français de la fin du XXe siècle, « Femme » de Philippe Solers, qui commence ainsi « Le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort, là-dessus, tout le monde ment ». Et quand j'ai lu ça, parce que, si vous voulez, la première phrase qui nous explique que la littérature donc ne peut rien. Mais Philippe Solers pensait exactement l'inverse. Il pensait que la littérature, et comme tous les grands écrivains, pouvait tout. Que, je veux dire, c'est dire ça, être un écrivain aujourd'hui, en 2023, et dire « je vais te dire, la littérature ne peut rien », c'est insulter, elle n'aurait donc aucun effet sur le réel, c'est insulter tous les écrivains, c'est insulter Flaubert. Il a eu un procès pour Madame Bovary, ça a joué sur le cours du réel, Baudelaire pareil, etc. Toute la grande littérature, ce sont des gens voilà qui ont sacrifié leur vie, qui l'ont parfois, et ont été embastillés pour écrire...
enfin, qui ont été devant les tribunaux.
Donc, dire un écrivain, Nicolas Mathieu, dire la littérature n'est pas rien, mais pourquoi le dit-il ? Et c'est là où j'en reviens au début, c'est qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Il écrit pour le social. Voilà. Et ça ne m'intéresse pas.
Patricia, puisque tu as commencé.
J'ai aussi... Pardon, hein, mais je ne... Aucune prérogative.
Vas-y.
J'ai jeté mon livre en l'air, moi, mais de joie, figure-toi. Moi, j'ai aimé ce livre.
Il a été un peu
livre.
Abîmé aussi, comme le mien.
En fait, les livres volent chez les chroniqueurs.
C'est pas du tout que pour faire joli. Je trouve qu'il y a une certaine osmose, même, entre ces dessins, que moi, je connaissais pas cet artiste. Ces dessins m'ont plu. Je suis désolée, ne me regarde pas comme si j'avais avalé un œuf. Il y a des passages qu'on a envie de lire à voix haute quand il écrit « Moi, je ne sais rien, sauf que j'étais perdu un jour de soleil » ou quand il écrit « J'échangerai sans hésiter 1000 ans d'écrivain pour une seconde de tes yeux ». Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait...
On y revient.
Il n'est pas en train de jeter la littérature à la poubelle. Il est en train de dire que la vie, parfois, vaut largement la littérature et que le récit qu'on en fait n'éclaire pas ce qu'on a vécu. Et que, en fait, alors, il peut consoler, mais pas éclairer. Et je trouve que, quand il écrit sur l'amour, quand il écrit sur les familles disloquées, les chambres d'hôtel à 3 balles, les supermarchés inhumains, moi, je suis désolée, je trouve ça assez juste. Quand il parle de son fils qui grandit trop vite et dont il voudrait qu'il ne dépasse jamais les 20 ans...
Ça, ce sont des vraiment beaux passages.
C'est des beaux passages. Ouais. Quand il parle de son père dont les bras se réduisent avec la vieillesse, alors que quand il était petit, il pouvait le tenir dans ses bras. Quand il écrit que dans la vie, on n'a jamais ce qu'on veut, mais que la vie qu'on a, il faut toujours la défendre. Moi, je suis désolée, je ne jette pas ça, je ne mets pas ça de côté. je trouve qu'il y a des belles choses.
Moi, j'ai l'impression qu'on a trouvé notre nouveau Philippe Delerme. Vous voyez, c'est tout ce que tout le monde ressent, disons, dans un milieu hétérosexuel normatif.
Tout ce que tout le monde ressent, on ressent tous à peu près les mêmes choses,
de
tu sais,
de moins de 50
ans,
avec voilà, une femme, donc il est tombé amoureux d'une femme qui il écrit ça dans l'introduction.
Qui n'est pas libre. Hein.
Qui n'est pas libre. Alors ça, j'ai trouvé cette formule, ça, incroyable, quoi.
Bah, et alors, et pourquoi elle est déjà avec un mec.
On dirait qu'il en parle comme d'une place de parking. Tiens, elle n'est pas libre.
Oh non, arrête, tu ne peux pas dire ça. Arrête, tu ne peux pas dire ça. Non. C'est pas, parce que tu sous-entends que ce livre est indigent. Or, il ne l'est pas.
Blandine Rinkel.
Moi, je suis embêtée. Je suis entre les deux positions, au sens où j'aime profondément l'écriture de Nicolas Mathieu, c'est-à-dire vraiment dans les zones profondes. Il y a un mélange de lyrisme, de précision qui confine parfois à la maniaquerie, de mélancolie, de saccage, comme ça, qui me plaît vraiment dans son écriture et qui m'a plu dans certaines pages du recueil. Mais en fait, pour moi, c'est la forme du recueil qui n'est pas opérante, qui ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression d'avoir, comme de l'huile essentielle de l'écriture de Nicolas Mathieu, un truc très condensé. Et je pense que ça tient notamment au ton des postes choisis pour ce recueil, au ton et au temps. En fait, il y a beaucoup de futurs dramatiques, exaltés, beaucoup d'impressions de futurs antérieurs aussi. Et donc, c'est très émouvant, ça nous prend comme ça, ça nous cueille, mais c'est si émotif, si évidemment affectif, que ça m'a écœurée. J'ai eu une sensation d'écœurement, j'ai eu l'impression de manger trop de bonbons, quoi. Un truc où, à la fin, j'étais écœurée, mais je crois que c'est un mal pour un bien, parce qu'en fait, ça m'a donné envie de le retrouver sous forme romanesque. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu entre vous deux.
Et qu'on attend un livre sur sa mère, parce qu'il ne fait que l'effleurer à un moment donné. Et moi, je me dis, moi, j'aimerais bien qu'il écrive sur sa mère.
Mais par contre, j'attends. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime tant dans son écriture romanesque? Et donc, j'ai repris un peu ses romans, j'ai regardé. Et je me suis dit, ce que j'aime, c'est précisément qu'il y a de longues phases de description plutôt sèches, plutôt musclées, plutôt maniaques, où il décrit, et soudain, des percées de lyrisme, des envolées comme ça, des futurs dramatiques comme on en a plein là dans le recueil, mais plus épisodiques et donc qui nous cueillent davantage. Voilà, donc j'ai hâte de le retrouver en roman.
Et c'est à toi, Raphaël, pour clore ce débat sur Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu.
Alors pour moi, ce livre a deux pôles, s'écrit entre deux pôles. Un qui serait les grandes chansons d'amour des divas lyriques, par exemple Maria Carré, cette espèce de solennité.
Il fallait qu'elle le prononce.
La solennité.
Maria Carré.
La solennité de la chanson de rupture qui fait croire et pleurer en amour. Et d'autre part, Roland Barthes, le sémiologue, qui écrivait que langage est une peau, je frotte mon langage contre l'autre. Et que tous ces postes sont une manière de se frotter contre la peau de l'autre à travers les mots, de poursuivre l'amour une fois qu'il est disparu, qu'il est indisponible. Et donc, je trouve ça assez touchant. Après, ce que disait Blandine Rinkel sur le futur antérieur, il y a des moments où je trouve ça très beau, d'autres où ça m'agace. C'est ce qu'il appelle le pressentiment de la fin, qui vaut pour l'histoire d'amour, mais qui vaut aussi pour l'enfance de son fils, la vie de son père. C'est un rapport au temps qui me semble être prédominant dans son rapport à la littérature. Il veut être le greffier des choses avant qu'elles ne disparaissent. Donc, quand il dit que la littérature ne peut rien, qu'elle n'a aucun intérêt, en fait, c'est une protestation de quelqu'un qui, par ailleurs, n'a que ça pour essayer de vivre. Il passe son temps à écrire les choses parce qu'il espère quand même sauver quelque chose. Et à un moment donné, il y a ce qui a été un post Instagram où il dit « Les crimes, nous ne ferons rien de cette histoire, nous ne ferons pas d'emprunt, nous n'aurons pas d'amis, pas d'album photo, et ben nous aurons ce livre-là. » Et que c'est au fond une forme de revanche, l'écriture. Et si, je crois qu'il croit profondément que la littérature peut quelque chose entre Maria Carré et Roland Barthes.
Il ne dit pas que la littérature ne peut rien et ni qu'elle ne vaut rien. Il dit simplement que la vie est au-dessus de la littérature, in fine. Enfin, c'est comme ça que je l'ai lu, pardon.
Et il se trompe.
C'était donc Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu, illustré par Aline Zalco, publié par les éditions Actes Sud. On continue ce masque et la plume dédié au livre avec Une existence sans précédent de Claire Fercac, qui est aussi éditrice, autrice de fiction documentaire, de livres jeunesse, de romans. Avec le dernier donc, Une existence sans précédent, Claire Fercac nous emmène dans le sillage d'Elena Servac. Elena est orpheline et à la mort de Nicole, sa mère d'adoption, elle décide de tout plaquer. Direction la Slovénie pour retrouver les traces de ses origines. Pour ça, Elena a une petite voiture rouge. Dans le coffre se trouve l'urne qui contient les cendres de Nicole, une valise dans laquelle elle a mis des livres et un pyjama à motif ananas. Et elle roule en écoutant Dalida. S'engage donc un voyage vers l'Est, où Elena Servac rencontrera des Servoques et des Servaques. La dernière particularité d'Elena, la plus importante à mon sens, c'est son amour des mots, qu'elle ampute, qu'elle tord, qu'elle invente, notamment au service de ses colères réjouissantes et de ses agacements. Raphaël.
Oui, la colère, c'est ce qui est le moteur de ce livre, et c'est une colère qui est narquoise, qui est joueuse, qui est très créatrice, et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce texte.
Et oui, c'est une teigne, ce personnage. Et qu'est-ce que c'est bon.
C'est une teigne, mais c'est une teigne très qui a un esprit d'enfance. Alors, elle n'a pas eu d'enfance, et elle part un peu sur les traces de cette enfance qu'elle n'a pas eue, mais elle est profondément habitée par cet esprit d'enfance qui fait qu'elle joue avec les mots, qui fait qu'elle est tord dans tous les sens. Elle dit que les mots, c'est ce qu'elle respecte le plus sur cette planète. Mais qu'en même temps, il y a des mots qui sont les choses qu'elle supporte le moins au monde, et des acronymes qui lui donne envie de tout casser. Elle est par ailleurs, elle abrite un animal à l'intérieur qui se matérialise par des cris. Et donc, cette colère, je trouve que c'est ce qui donne son énergie au texte. C'est évidemment un road trip, excusez-moi pour l'anglicisme.
Tu as lu Le Courrier des auditeurs.
Voilà. Un roman qui de voyage. Et évidemment, et elle n'est pas dupe du fait, elle le dit très tôt, que le sujet, ça n'est pas ce vers quoi on va, mais le voyage en lui-même, et ce n'est pas ce qu'on va chercher, c'est ce qui se passe au cours du chemin. Et elle a une espèce d'ironie vis-à-vis de ça que je trouve très joyeuse, très intéressante et très émouvante sur l'ensemble du texte.
Arnaud, je vois que tu soupires un peu. Je le sens.
Oui.
Ce personnage féminin qui déteste le yoga, le sport et les enfants ne t'a pas séduit.
Oui. Moi, j'ai l'impression d'être dans l'urne, en fait, pour toute ma lecture, c'est-à-dire à la place du mort, on va dire. C'est-à-dire que donc on a cette jeune femme. Mais j'ai lu parce que comme j'étais un peu désarçonné, on va dire, mais pas tant que ça non plus par ma lecture. Mais j'ai lu un long entretien de Claire Fercaq. Donc il faut comme ça il faut.
C'est Claire Fercaq,
oui. Oui, voilà. Mais je ne la connaissais pas. Moi, c'est la première fois que je la lisais par ailleurs. Et donc elle expliquait qu'au départ elle n'avait pas le nom de son personnage et que l'éditeur lui avait fait remarquer. Et donc elle avait inventé donc ce double Serfac. Donc on voit bien, effectivement, mais le problème, c'est qu'on voit bien et on voit pas bien, précisément. Moi, le pacte de lecture, je le comprends pas. Alors après, je vois bien qu'elle joue avec les mots. Alors, vous inquiétez pas, ça va pas très très loin. Elle remplace platonisme par platonisme. C'est Finnegan's Wake qui rentre maternelle à peu près dans le jeu avec les mots. Voilà.
Est-ce que tu dors bien en ce moment?
Non, je.
Parce que t'es quand même sacrément grognon.
Là, non, c'est pas ça. Je suis pas grognon. Si tu veux, c'est que là, avec ce livre, j'ai très bien dormi. voilà. C'est-à-dire que, parce que c'est intéressant, parce que ce personnage, donc, a une maladie qui porte un nom un peu savant, et où elle dit qu'elle a une fuite dans les idées.
La tachypsychie. Voilà.
Et une fuite dans les idées, bon, c'est très joli, mais enfin, je confirme, il y a une vraie fuite dans les idées dans le livre. À un moment, elle raconte que justement, sa dissertation sur le platonisme, elle l'a faite pour l'université, et qu'elle a eu 3 sur 20, avec un mot de l'examinateur qui disait « les 3 points surpont la créativité dans le langage ». Je donne la même note.
Blandine.
Non, moi j'ai trouvé ça très mélancolique. J'ai pas retenu tellement la colère, mais c'est des affaires de tempérament, je pense. Et réjouissant, en fait, j'ai pensé à, vous savez, ce jeu si on divisait l'humanité en 2 catégories de personnes. Je me suis dit que selon elle, s'il y aurait les gens placés à leur place, les gens qui savent où ils sont et qui parlent toujours depuis leur place, et les gens qui sont un peu dans l'entre-deux, qui sont déplacés et qui déplacent le langage. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'elle cherche à faire, et Claire Fersac et sa narratrice, à avoir un langage déplacé, parfois bizarre, maladroit, un mélange bizarre, c'est vrai, de sophistication, d'infantilisme. En fait, moi, ça m'a fait penser à Raphaël Quenard.
Le comédien.
Comédien, ouais. Un mélange étrange de mots très empruntés, parfois même presque maniérés.
Et d'argot.
Et d'argot, exactement. Et donc un truc très enfantin, mais réjouissant et plus triste que ça n'y paraît.
Mais il y a
vraiment la mélancolie
aussi.
De ne pas avoir eu une enfance, parce que elle revient beaucoup là-dessus. Enfin, on lui demande à un moment pourquoi elle ne veut pas avoir d'enfant, et elle entend. Pourquoi vous n'avez pas d'enfant, et elle entend pourquoi je n'ai pas d'enfance. Et je pense qu'elle la cherche dans la langue, et j'ai trouvé ça assez émouvant.
Patricia, tu as bien dormi, toi ?
J'ai très bien dormi, mais moi, non seulement ce livre ne m'a pas endormie, mais il pique sacrément, en tout cas. Quand je trouve que son jeu avec les mots, sa tête terre, quand elle parle de ça, c'est sa tête qui dégénère. Quand elle dit « j'antipate qu'on me traite », quand elle écrit « la faim me grince le bide », moi, je trouve qu'il y a une certaine recherche quand même sur la langue, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Raphaël, c'est-à-dire que la colère, c'est un sacré carburant, et que en fait, c'est probablement ce qu'il a pousse à naître à elle-même. Quand on n'a pas, puisqu'elle a le sentiment de ne pas avoir une génitrice, en fait.
Oui, parce qu'elle est orpheline, elle c'est est un orpheline. Personnage qui est,
mais, et
elle
donc,
est orpheline.
Elle, c'est pas la mère qui pousse, c'est la colère qui la pousse à faire les choses. Et il y a une hyperacousie dans ce livre constante, c'est-à-dire que, rien que la première phrase d'ailleurs, elle écrit « Je suis habitée par un cri ». Donc ça tonne dedans, ça tonne dehors, ça va très vite, parce qu'elle elle fonce, enfin elle doit pas conduire très bien, on se demande quand même, avec donc Nicole dans le coffre. Oui. Elle a quand même un certain nombre d'ennemis aux trousses, elle a cet horrible gelet qui lui a servi cet homme...
Qui était le mari de Nicole.
Qui était le mari de Nicole, cette espèce d'horrible bonhomme qui lui a servi de...
À qui elle a piqué l'urne, pour terminer de situer.
Oui, exact. Non, il y a la cruauté des internats, il y a l'incompréhension d'un certain nombre de thérapeutes. Elle en a sacrément bavé. Alors, Walter Benjamin, est-ce que c'est comme ça qu'on dit en français ? Je ne sais pas comment on prononce.
Tu peux le dire comme tu
veux. Et le sucre à la place du cœur qui la console. C'est une très très jolie façon d'en parler. Et puis cette volonté farouche qu'elle a de combler des trous, que finalement des trous, des vides, qu'elle n'arrivera pas à combler complètement, mais elle parviendra, à mon sens, à vivre avec un certain nombre d'incertitudes. De là son intelligence, parce que plus on supporte l'incertitude, il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi et beaucoup mieux, plus on supporte l'incertitude finalement, mieux on se porte et plus on est intelligent, à mon sens.
C'était donc une existence sans précédent de Claire Fercac et ça a paru chez Vertical. On s'intéresse maintenant à American Mother de l'Irlandais Colm McCann. La mère américaine du titre, c'est Diane Foley, dont le fils James est le premier otage américain exécuté par Daesh en 2014. Le début d'American Mother est consacré à la rencontre entre Diane Foley et l'un des bourreaux de son fils. C'est elle qui a souhaité le rencontrer. Elle réussit à établir une communication et un commencement de dialogue avec cet homme. Dans les chapitres suivants est racontée la journée où la famille Foley apprend la mort de James par décapitation. Et on entre ensuite dans la jeunesse et la vocation journalistique de James Foley lui-même. C'est donc un livre hommage pour maintenir vive la mémoire de cet homme. Un livre qui embrasse l'histoire mondiale depuis le début des années 2000 aussi, le 11 septembre, les printemps arabes, le déploiement de l'État islamique. Et c'est enfin une dénonciation de l'attitude de l'administration américaine ou encore une réflexion sur le métier de journaliste freelance. Donc beaucoup de choses. Mon tout est pourtant un livre bref de 200 pages. Blandine.
Alors, c'est un récit que j'ai trouvé à la fois casse-gueule et gracieux. Je dirais, je l'ai trouvé en équilibre instable, en fait. Les différentes parties m'ont pas convaincue de la même façon. Parce que parfois j'ai trouvé l'écriture très journalistique, informative et à ce titre très intéressante, notamment sur le fait que la mère se questionne sur la responsabilité du gouvernement américain dans la mort de son fils, dans la mesure où celui-ci a refusé d'entreprendre la moindre négociation d'otages. Mais parfois j'ai eu l'impression que Colm McCann, avec cette écriture presque journalistique, était comme lesté en fait par sa mission, comme s'il était empêché de porter un regard vraiment singulier en fait sur le fils en question. Et en fait la mère très croyante, je ne sais plus si tu l'as dit, mais très croyante, ça nous est dit et répété, considère son fils comme exemplaire vraiment profondément bon, très américain aussi en ce sens, le récit. Ouais,
ce sont deux saints, d'une certaine façon. Hein,
ouais,
c'est vrai. On a l'impression que...
Et ce défaut d'aspérité quoi, dans le portrait du fils le rend assez souvent archétypal et leste un peu le récit. Mais ce qui m'a semblé le plus puissant et le plus émouvant en fait, dans ce livre... pour peu qu'on suspende son incrédulité, c'est tous les passages où on explore vraiment les contradictions qui traversent Diane Foley et Colm McCann, les allers-retours où à la fois on veut blâmer, pardonner le tortionnaire, sans cesse s'interroger, faire l'effort de se déplacer. Et ça m'a semblé être une assez belle manière de répondre à la vérité unique en fait, imposée par Daesh, ce goût de la contradiction, de l'aller-retour, de la remise en question. Voilà, en ce livre, en ça, je veux dire, le livre, je l'ai trouvé assez désarmant parce qu'il rappelle que la vérité est comme un trou noir autour duquel on tourne, mais qu'on peut pas vraiment regarder en face, et que c'est ce mouvement permanent, cette perception inquiète, cette écoute aussi, cette attention, même quand elle semble risible, même quand elle semble ne pas être assez, bah, c'est peut-être ça qui résulte du choix de la vie.
Tatin. Raphaël.
Il y a un chercheur en littérature qui s'appelle Alexandre Geffen qui a écrit un livre pour expliquer que la littérature, notamment française, de ces dernières années, avait pour objectif de réparer le monde. Que c'était une pulsion, un besoin qui habitait la littérature. Alors, il parle de la littérature française, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui porte American Mother et Colm McCann pour ce livre-là, et puis pour le précédent, Appel Rogon, qui était un texte écrit sur deux pères endeuillés dans le conflit israélo-palestinien, donc deux hommes qui avaient perdu leur fille. Donc là, on a American Mother, qui est Diane Foley, qui a perdu son fils. Et Colm McCann met son écriture, son nom aussi, au service de cette histoire. Il met une espèce de transparence du langage qui fait qu'on ne sait pas toujours lui où il se positionne, et donc parfois c'est désarçonnant, et en même temps je crois que c'est un acte d'altruisme de sa part en tant qu'écrivain de se mettre complètement au service de Diane Follet, par exemple d'épouser sa foi, que je crois qu'il ne partage pas du tout, mais il ne laisse rien transparaître de ça. C'est à la fois, je trouve, très émouvant comme démarche, et en même temps un peu une limite pour le lecteur, mais je trouve ça assez beau dans l'ensemble.
Alors, je sais que Transfuge, le journal pour lequel tu écris, Arnaud, a mis Colm McCann à la une, oui. Et que c'est aussi le roman étranger qui a vraiment été salué, élu par le journal de ce début oui. d'année. Tu y adhères ou pas? Parce que là, il y a effectivement cette question d'une écriture très journalistique parfois, de l'ambition de rendre compte de la complexité des émotions et en même temps de personnages assez archétypaux.
Non, mais je crois que Blandine et Raphaël ont dit exactement la même chose, et ce que je pense aussi, c'est que Colm McCann s'est mis à la disposition de Diane Follet en devenant quelque chose qui est de l'ordre de son secrétaire particulier, de son scribe, c'est-à-dire qu'il a écouté Diane Follet, il raconte son histoire. Ça donne un livre, mais ça aurait pu donner un podcast de la même manière. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un travail d'écrivain, il ne fait pas non plus un travail de journaliste. On le voit d'ailleurs, parce on parle tout le temps de la rencontre avec le meurtre de son fils, mais il y a une autre grande rencontre, c'est qu'elle rencontre Barack Obama dans le bureau ovale.
Mais en fait, ouais.
il ne fait que répéter ce que lui a, parce que pour le coup il n'était pas là, ce que lui a dit Diane Follet, à savoir que Barack Obama s'était montré extrêmement froid avec elle. Et c'est tout, ça fait trois lignes. Alors que évidemment, vous imaginez l'ampleur, elle a eu rendez-vous dans le bureau ovale avec Barack Obama, c'est pas rien. Donc en fait, il ne sait pas utiliser cette matière-là parce qu'il ne peut pas, il n'a pas envie non plus d'enquêter. Est-ce que Barack Obama a été vraiment froid? On comprend, et c'est la chose aussi que tu as dite, Blandine, c'est que les États-Unis refusent de négocier. Ils ne veulent pas, et ils ne veulent pas non plus que les parents donnent de l'argent.
Ils refusent de négocier pour les otages civils.
Parce que ces gens pourraient vendre leur maison et puis payer une rançon. Enfin, voilà. En fait, c'est le gouvernement américain qui ne veut pas. Mais là aussi, on l'apprend. Mais Colm McCann aurait pu, investiguer, se poser des questions, etc. C'est pas du tout ce qu'il fait. Il sert de chambre d'enregistrement. Il est un peu comme Lascaz avec Napoléon. L'autre, il a écrit les mémoires de Napoléon.
Je l'ai entendu dans un podcast dire que sur le même sujet. Il aurait écrit un livre tout à fait différent s'il n'avait pas écrit avec elle.
Donc c'est difficile d'en dire du bien ou du mal, puisque, à mon avis, il n'y a pas d'écriture. C'est un témoignage, voilà.
Alors, je vous trouve là encore, moi je suis désolée, comme une ambulance, mais c'est vrai que c'est quand même sévère de dire qu'il n'y a pas d'écriture, et on dirait qu'il est devant son ordinateur, et puis que clac-clac, il tape ce qu'elle lui raconte. Non, il y a quand même, je trouve qu'il faut quand même être un sacré bon écrivain, pour mettre ça en forme de cette manière-là. Alors maintenant qu'il aurait certainement fait un autre livre s'il avait été tout seul et s'il n'avait travaillé ou peut-être qu'avec des entretiens tout à fait à part ou sur des archives, ça c'est possible. Mais il ressort quand même. Alors en même temps, je pense qu'elle a quand même dû sacrément l'impressionner. C'est une femme, enfin je ne sais pas si c'est un archétype, mais cette Diane Follet, ben moi je dois dire que c'est tout un processus. Hein. Elle est très croyante, mais ce n'est pas non plus une bénie oui-oui qui est là et qui... elle a ses colères, elle a des envies de vengeance parfois, enfin elle peut être très très mal. Et elle finit par serrer la main de l'assassin de son fils et de lui dire qu'elle pense avec beaucoup de tendresse à ses propres enfants, à lui. Et elle lui dit même que s'il a besoin d'argent, parce qu'elle pense à ses filles qui ont été dans un camp, enfin très certainement maltraité d'une certaine manière. Et si vous avez besoin d'argent, etc., je suis là. Je trouve que moi, j'en ai la chair de poule en racontant.
Elle dit même le bourreau de son fils que son fils et lui auraient pu être amis.
Hein, exactement, qu'ils auraient pu être amis. En plus, elle a ça de bien, c'est qu'elle ne sait pas, avant de le rencontrer, lui, le bourreau, elle ne sait pas ce qu'elle attend de lui et elle ne sait pas non plus ce qu'elle attend d'elle. Donc, il n'y a pas que des archétypes là-dedans. Il y a aussi des tas de nuances. J'avais l'impression que vous disiez tous les uns les autres que ça simplifiait un peu les personnages.
Selon les parties, en fait. Il y a des parties très, très différentes. Hein, selon c'est elle qui parle à la première personne ou qu'elle est regardée à la troisième. Selon l'instance narrative, en fait, son écriture est plus ou moins libre, à mon sens.
Mais elle doute, elle est en colère, c'est quand même une femme qui... Et puis, alors, ce qu'elle balance sur Obama, non seulement il est froid, mais il est grossier. Quand elle le rencontre, il est en train de se taper tranquillement son thé, et il lui a même pas l'idée de lui faire apporter, parce que c'est pas lui évidemment qui va le faire, mais de lui faire apporter une tasse pour elle. Enfin, mais c'est effectivement extrêmement grossier. Il ne les appelle pas quand ils savent que leur fils est mort.
Ils l'apprennent comme tout le monde.
Ils l'apprennent comme tout le monde. Aucun coup de téléphone. C'est atroce. Atroce.
American Mother, donc, de Colm McCann, traduit par Clément Baude et publié chez Bellefond. On termine avec En vérité, Alice, de Tiffany Tavernier. Ce livre-ci commence dans un hôpital où Alice est auscultée pour blessure. Dès la première page, on comprend que c'est son compagnon qui en est responsable, mais Alice, elle, est engluée dans le déni longtemps et le livre déploie sa prise de conscience progressive. Tiffany Tavernier aborde donc le thème de l'emprise, la façon dont une femme s'en libère, donc un thème et une trame qui n'ont rien d'inédit, puisque la question est très présente dans l'actualité, les récits, la fiction, en littérature comme au cinéma, et parfois les deux se rejoignent d'ailleurs. Je pense par exemple à L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt, que Éric Reinhardt a publié il y a 10 ans et que Valérie Donzelli a adapté pour le cinéma il y a quelques mois. On peut donc se demander dans quelle mesure Tiffany Tavernier renouvelle l'écriture et le récit de l'emprise. Or, il s'avère que dans son cheminement, son personnage principal, Alice, se met à fréquenter et découvrir la vie des saints, parce qu'Alice se retrouve employée par le diocèse de Paris pour aider à promouvoir des candidates et candidats à la canonisation. Patricia.
Alors ça, moi, c'est quand même une partie extrêmement drôle. Tous ces gens qui ont en plus des noms à coucher dehors, surtout les femmes. C'est un affolant processus que de devenir saint. Ça se fait vraiment pas comme ça. Je le dis pour Arnaud, si jamais tu avais l'envie de l'être un jour. Et les saints labellisés, il en est aussi question dans ce livre. Et là, ceux-là, ils sont peinards. Ils sont adoubés. Moi, j'ai appris énormément de choses là-dessus. Et c'est ça que j'aime dans ce livre. C'est d'abord, tu parlais de l'emprise. Mais sur le déni qu'a cette femme, en fait, elle est dans le déni, cette Alice, mais nous, on sait qu'elle a tort d'être, puisqu'on détient presque une vérité à laquelle elle n'a pas accès, en fait. Elle arpente une sorte de terrain miné en pensant qu'elle se balade en forêt et que cuicui les petits oiseaux et cuicui le grand amour. Et c'est une histoire qui est en permanente court-circuitée. C'est-à-dire, tout s'y emmêle. Il y a les monologues, il y a les intrusions de l'extérieur, il y a cet homme qui est complètement dingue et sa folie. Alors là, pour le coup, c'est pas un livre qui jette contre un mur, c'est un cendrier. Et puis une autre fois, il jette plein d'objets comme ça, dont un objet extrêmement lourd, visiblement...
Et violent.
Avec une certaine envie de la tuer. Et moi, je trouve c'est à la fois psychologiquement très intéressant, il y a un suspense et ça tourne comme on ne... Enfin, moi, je ne pensais pas que ça allait tourner comme ça. Je m'attendais à d'autres choses. Et je trouve qu'elle décrit très, très bien les raies de lumière qu'il peut y avoir dans une histoire, alors que c'est tellement plus simple de ne s'en tenir qu'aux ténèbres. Et là, il y en a des ténèbres, il y en a beaucoup. Or, il y a quand même des rayons de lumière, comme des éclairs dans cette histoire, qui sont magnifiques.
Arnaud ?
Bon, déjà...
Ça commence mal.
Non.
Avec ben déjà.
J'ai pas dit.
Oui, mais déjà, je te connais.
Ça commence
mal.
Bon, déjà, dans ce programme, c'est le livre que j'ai dévoré. Je l'ai lu, mais vraiment d'une traite, en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de lire, quoi. J'ai été à la fois, je ne sais pas si je le lisais comme il fallait, comme Tiffany Tavernier a voulu qu'on le lise, mais j'étais parfois mais mort de rire, alors qu'il s'agit quand même d'une question d'emprise. Mais en fait, il y a énormément de choses, parce qu'il y a aussi une épidémie où les enfants s'endorment, ça n'arrête pas. Hein, je veux dire, il y a une espèce de bouillonnement d'imagination de la part de Tiffany Tavernier. J'avais lu son précédent roman que je n'avais pas trop aimé, mais la fin, je ne sais plus comment il s'appelait.
Il y avait Roissy mais et l'ami. En tout cas, chez Vespasien.
La fin était déjà dans une espèce de délire que je retrouve complètement. C'est-à-dire que là, voilà, on a quelqu'un qui crée. Alors c'est le retour. En plus, c'est ça qui est formidable. Enfin, moi, je trouve ça dingue. C'est-à-dire, on est en 2024 et c'est le retour de ce qu'on appelait au 19e siècle la littérature édifiante. Parce que, vous savez, au 19e siècle, l'Église considérait mal le roman, qui était un genre qui pervertissait, et notamment les femmes. C'est le procès de Madame Bovary, précisément, quoi. Et puis, à un moment, l'Église s'est dit, on va écrire des romans édifiants. C'est-à-dire des romans qui expliquent aux femmes comment, voilà, la vie. Mais évidemment, du point de vue de l'Église.
Comme un mode d'emploi, quoi.
De l'Église catholique. Et là, si vous voulez, c'est ce qui se passe dans ce livre. C'est vraiment, il est édifiant. Parce que, quand même, c'est pas souvent, vous pouvez, sans problème, l'offrir à une classe non mixte du collège Stanislas, hein. Il y a aucun problème. Ils ne diront rien. Rien du tout. C'est quand même assez rare
de
lire
la vie des
un roman qui vous dit aussi mystérieuse fécondité de l'obéissance. Vous imaginez lire ça quand même aussi mystérieuse fécondité que l'obéissance. En même temps, c'est extrêmement documenté. Je pensais au film que feu Jean-Pierre Mocky aurait pu faire avec un livre pareil. Vraiment, c'est-à-dire qu'il aurait retourné sans doute les intentions de Tiffany Tavernier, mais peu importe. Mais ce qui était très documenté aussi sur cette affaire de saint. Et par exemple, moi, j'ai quand même appris donc qu'il y avait donc un saint des geeks. Et c'est vrai, je suis allé vérifier cette information que donne Tiffany Tavernier. C'est vrai, il y a eu un jeune garçon qui était geek, qui a fait des sites évangéliques qui se sont disséminés dans le monde, et il est mort très jeune, à 15 ans, et donc il a été béatifié, et c'est donc le saint des geeks. Et donc, rien que ça, quand même, vous apprenez ça dans le roman, c'est très sérieux. Donc, moi, je sais pas comment il sera lu, etc., mais ce livre, en tout cas, est totalement extraordinaire, ça au sens propre du mot. Il sort de l'ordinaire.
Et tu sais qu'il y a un Saint Arnaud ?
Oui.
Tu savais ou pas ?
Le 10 février.
Exactement. Et ouais. C'est un moine qui est mort en prison à l'issue de 8 années de souffrance.
Oui, bah, je savais.
Je ne sais pas s'il y a une Saint Blandine.
Mais... Ah, bah, la fameuse.
Ah, bah, si,
Saint Blandine, il y a tellement joué par les lions, c'est toute une affaire.
Ouais, oui, voilà. Ça raconte ma culture religieuse. C'est dire si j'ai appris beaucoup de choses à la lecture de, en vérité, Alice Blandine.
Ouais, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire. J'ai eu la sensation d'un roman illuminé dans tous les sens du terme. C'est vrai. Je le dis plutôt en bonne part. Je savais pas bien qu'est-ce que c'était que cette lumière qui me venait, mais j'ai trouvé ça intéressant, ce roman illuminé. Mais en fait, la métaphore qui conviendrait, je pense, c'est, j'ai eu la sensation d'embarquer dans un avion qui roulait quand même un long moment avant de prendre son envol. Elle n'est pas tout à fait écologique, cette métaphore, mais j'ai eu cette sensation, ouais, au départ, d'être face à un programme d'un récit d'emprise, c'est-à-dire on retrouve le fait que l'homme coupable se comporte comme une victime, que la femme victime se sent coupable à travers des monologues sur sa culpabilité. Les récits sont inversés. On sent bien que la question va être comment s'extirper de ça, de cette relation. Et on le sent, on le sait un peu trop bien. J'ai eu la sensation au départ que l'écrivaine en savait presque trop, en fait, sur son personnage. Je voyais surtout une écrivaine écrire sur une histoire plutôt qu'une histoire se déployer tout à fait. Et puis, à mesure, en fait, que, grâce à Dieu, nous arrivaient des évêques et des oiseaux à qui on parle et qu'on regarde dans les yeux et des enfants qui s'endorment, j'ai trouvé que ça gagnait en étrangeté et vraiment en intérêt, en illumination.
Ah oui.
Et en fait, je me suis dit à la fin, qu'est-ce que ce roman nous pose comme question, et peut-être qu'il pose la question ce que c'est que croire à l'amour, croire à soi, croire aux autres, croire à la fiction aussi, parce que j'ai eu du mal à y croire, puis j'y ai cru, mais par des voix assez insoupçonnées, enfin voilà, croire.
Les voix du Seigneur sont impénétrables.
Et Sainte Blandine a, je crois, été dévorée, il me semble que c'est par des lions.
Oui, c'est des lions.
Ma passion est diffusée à 10h, c'est l'heure de la messe aussi, je crois. Raphaël.
Rude semaine pour les personnes qui restent en lisière de la mystique. Après Diane Follet, qui est quand même très, très portée sur les signes.
Oui, c'est vrai.
Le
c'est vrai.
Donc là, il y a une intensité mystique à laquelle je suis personnellement peu sensible. Et de manière générale, une intensité en lisière de laquelle je suis restée globalement, puisque le récit sur l'emprise, comme le disait Blandine, c'est un peu programmatique, c'est-à-dire on sait comment ça fonctionne et on le met en roman, on le met en fiction, et pour le coup, on est peu surpris. Alors la surprise vient de ce contexte très très sain, mais alors voilà, sur moi, ça n'a pas fonctionné, sans doute parce que j'ai un très mauvais fond.
Mais tu aimes Maria Carré, donc on pense. En vérité, Alice de Tiffany Tavernier est publiée chez Sabine Vespizer. Après les 4 livres débattus, voici nos 5 coups de cœur. Raphaël, qu'as-tu choisi ?
La vie clandestine de Monica Sabolo, qui vient de reparaître en poche chez Folio. Je crois que c'est un des livres que j'ai le plus offert en 2022, et c'est quand même toujours un signe quand on a envie de faire lire les textes aux gens qu'on aime. Il y a 2 fils dans ce texte, une histoire de l'action, une enquête sur l'action française, une enquête un peu brinque-ballante, mais qui va jusqu'au bout d'elle-même, et puis une enquête sur une histoire pleine de violence, de secrets, de silence. Et donc le livre avance sur ces 2 fils avec une grâce qui est hardie, qui doute beaucoup d'elle-même, mais qui y va, qui a ce courage-là, de l'obstination, de l'humour. C'est un livre très beau sur la mémoire, la douleur des victimes, le pardon, un roman sur l'ombre d'où jaillit énormément de lumière, pour le coup.
On redonne le titre, donc...
La vie clandestine de Monica Sabolo, en folio.
En poche.
J'applaudis des 2 mains, c'est formidable.
Et
heureux ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est vrai ça, ça donne un peu à l'heure de la messe, on peut dire ça, non ? Heureux ceux qui ne l'ont pas encore lu. Alors, il s'agit d'un premier roman, L'Escale, de Marion Lejeune, publié aux éditions Le Bruit du Monde. C'est un livre qui m'a enthousiasmée. 2 mots de l'histoire, c'est l'histoire d'un marin, il s'appelle Grigori, il navigue sur un voilier de commerce norvégien, et puis à un moment donné, le navire fait escale sur un archipel dans l'Atlantique Nord. Alors là, évidemment, il y a des gens qui y vivent, il y a des paysages qui s'y déploient. Le tout est assez, à la fois sauvage et attrayant. Seulement, bon, Grigori est menacé. Il est menacé de mort. Il y a une sombre histoire de dette là-dessous. Donc ça donne beaucoup de corps à l'histoire. L'écriture est, je trouve, à la fois très, très classique, mais très belle. L'auteur est jeune, hein, elle s'appelle pas seulement Lejeune, elle est jeune, elle a une 30aine d'années. Et je trouve que tout ça est très, très prometteur. Voilà, L'Escale de Marion Lejeune, Au bruit du monde.
Blandine.
Alors, moi, c'est la version audio lue par Catherine Deneuil. Faut pas dire moi, les auditeurs vont me reprendre là, non, c'est pas bien. Là.
Trop tard.
On va reprendre moi. La version audio, donc lue par Catherine Deneuve du recueil de poèmes Les abricots du Donbass de la poétesse ukrainienne Luba Yakimchuk, traduit par Irina Dmitrychine et Agathe Bonin.
Bravo.
Bravo. Là, franchement, pour l'élocution.
C'est 47 poèmes assez stupéfiants sur ce que la guerre fait à la langue et à l'amour. En peu de phrases, il y a des images assez frappantes, comme celle d'une petite fille qui assiste au viol de sa mère par des soldats, et la mère a perdu son alliance, la fille la récupère et la met dans sa bouche, je cite, comme un chien un os. La version écrite bilingue est parue aux éditions des Femmes en juin 2023, avec une préface précise, puissante, qui nous explique que l'occupation de l'ennemi en temps de guerre, donc en l'occurrence des Russes, se niche jusqu'à l'occupation de la langue, même si la langue a toujours du retard sur la vie. En l'occurrence, c'est urgent. Lisez-la, écoutez-la. Luba Yakimchuk ou Catherine Deneuve.
Et alors, on peut écouter où ces lectures hein, sur des plateformes ?
Oui, je pense que c'est achetable en ligne, sur Internet.
Arnaud ?
Alors, c'est un livre de Velibor Šolić. Alors, je essaye de bien le prononcer. Je n'ai pas fait yougoslave première langue. Donc, il est d'origine bosniaque. Il vit à Bruxelles. Il écrit en français, Šolić. C'est son 5e roman chez Gallimard. Je n'en avais jamais lu. J'étais attiré par le titre parce que le roman s'appelle Guerre et pluie. Et vous dites, ça c'est bizarre, mais personne n'y avait encore jamais pensé. Alors que quand même, elle est belle, quoi. Guerre et pluie. Et donc, vous rentrez dans ce roman. C'est l'inconnu. Je ne l'ai jamais lu. Et ça commence au moment du confinement. Il a il parle de lui, hein. C'est très clairement un texte autobiographique. Il a une maladie rare. auto-immune qui fait qu'il a des choses vraiment des aphtes dans la bouche qui lui font très très mal, comme des coups de rasoir, rapport avec la langue évidemment dont tu viens de parler, Blandine. Il en parle mais très rapidement. Ce qui est génial avec, donc il raconte aussi que il a fait la guerre en Bosnie, donc côté bosniaque, et il a déserté. Il a dit j'en ai ras le bol, je déserte. Et il est venu en France par ses propres moyens. Il y a une description de la gare Montparnasse qu'il fait vue par un étranger qui n'a jamais vu un pays occidental, qui est absolument merveilleuse. C'est un très grand écrivain que je viens au moins, donc il doit sans doute l'être, j'ai envie de lire ses précédents romans. Très grand écrivain, pourquoi? C'est qu'il passe de la drôlerie à la tristesse à toute vitesse. Parce que en même temps, il est extrêmement drôle. Et donc, pour moi, là, j'ai découvert un écrivain merveilleux. Voilà.
Alors, on redonne le nom et le titre.
Rilibor Šolić, ça s'appelle Guerre et pluie, ça s'oublie pas, et c'est chez Gallimard.
La dernière fois, pour ma part, je vous ai recommandé le podcast littéraire Bookmakers, que vraisemblablement beaucoup d'entre vous ont découvert. Et une auditrice m'a quand même fait le reproche de ne pas avoir choisi un livre. Et voilà qu'aujourd'hui, je vous conseille une série documentaire qui, cela dit, donne des dizaines d'envies de lecture. C'est une collection qui s'intitule Les grands romans du scandale. 6 épisodes de 52 minutes qui sont en ligne. Le dernier paru est dédié à la religieuse de Diderot, où tu fais une lecture, je crois, Blandine. Figure aussi L'art de la joie, Lolita de Nabokov. Et pour ma part, j'ai revu l'épisode dédié au procès de Flaubert pour Emma Bovary. Donc, curieusement, et voilà, il en a été question dans cette émission. Et donc, on entre dans le laboratoire du manuscrit de Flaubert. Les enjeux du roman, au-delà du scandale, sont abordés précisément. Et puis, on profite des commentaires de Nathalie Sarraute ou d'Isabelle Huppert, qui elle-même a interprété Emma pour Chabrol. C'est en ligne sur arte.tv et c'est gratuit. Blandine, Raphaël, Patricia, Arnaud, merci d'avoir participé et d'avoir apporté vos lumières à la tribune de ce masque. Le prochain enregistrement de l'émission aura lieu jeudi 29 février à 19h et il sera question de théâtre, de stand-up et de comédie musicale. J'ai pas tout à fait fini, Arnaud. Audrey Ripouille réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Jérémy Kaufmann, Charles Bouticourt et Cédric Chatelus aujourd'hui. Ilinka Negulesco est l'autre pilier indispensable de ce programme avec Célestine Babinet. Me reste à vous dire à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.